Bonjour Mathieu Cizel, merci d'avoir accepté cette interview dans le cadre du projet Hype 13. Pour commencer, est-ce que vous pourriez vous présenter votre domaine d'activité et de recherche ?
Alors, je suis enseignant-chercheur à CY Cergy Paris Université. Je travaille sur le plan de la recherche sur tout ce qui est technologie éducative dans l'enseignement supérieur, avec en particulier les MOOC et l'apprentissage adaptatif. Mmh. Et en termes d'enseignement, j'enseigne la data science.
Alors, comment en êtes-vous arrivé à travailler sur les MOOC ?
Alors, c'est une forme de rébellion quand j'étais étudiant. Mmh. J'étais dans des stages en laboratoire, par exemple dans la jungle indienne. Je me suis rendu compte que je n'avais pas les compétences et les connaissances nécessaires pour remplir mes missions convenablement. Et sur Internet, je n'arrivais pas à trouver, que ce soit dans les revues scientifiques ou différents types de sites, les contenus, les matériaux pour m'auto-former. Mmh. Et c'est à partir de là que j'ai réalisé qu'en fin de compte, le nombre de cours universitaires en ligne disponibles était relativement limité. Et quand ils étaient présents, ils n'étaient pas réellement interactifs. Aucune interactivité, aucune capacité de s'auto-évaluer, d'interagir avec des gens mmh. qui apprenaient. À l'issue de mes études, à partir de ce constat, j'ai voulu créer une plateforme. Ça n'a pas réellement marché. Le projet s'est mis en thèse et de fil en aiguille, j'ai centré depuis plus de 10 ans maintenant toute mon activité professionnelle autour de cette idée de travailler sur des cours en ligne ouverts à tous.
Comment est-ce que vous pourriez définir de manière simple ce qui se cache derrière l'acronyme MOOC ?
Massive Open Online Course. Donc l'idée, en fait, c'est d'avoir des cours en ligne ouverts à tous, mmh. massifs. Pour moi, c'est un cours en ligne assez classique, hein, comme on en fait depuis des décennies dans des formations à distance sur Internet, doublé d'un projet politique, ce projet mmh. étant l'ouverture. Il n'y a pas réellement d'innovation technologique par rapport à ce qui se faisait avant. Au contraire, en général, quand on massifie l'audience, bah, mmh. on est obligé de laisser de côté un certain nombre d'activités, pas réellement d'encadrement individuel de l'apprenant, pas réellement d'évaluation individuelle. Mais en revanche, c'est le prix à payer pour cette ouverture et le caractère massif du cours. C'est assez important aussi de dire que pour parler de MOOC, à mon sens, il faut que le cours attire un minimum des centaines, voire des milliers de personnes. Mm-hmm. Sinon, c'est simplement un HOOC, Open Online Course. Pour moi, c'est pour ça que j'aime bien l'idée de la traduction française, CLO, cours en ligne ouvert à tous, mm-hmm. qui ne dit rien sur son succès ou non en termes d'apprenants.
Vous avez évoqué tout à l'heure le fait que vous travaillez sur cet objet depuis 10 ans environ. Quelle évolution est-ce que vous avez pu observer par rapport à l'usage, que ce soit en milieu professionnel ou en milieu universitaire ?
En fait, les choses ont bougé assez vite dans les premières années. Et après, en France, elles se sont un petit peu intégrées, mais à la marge, dans mm-hmm. l'enseignement supérieur. La situation est très différente, en fait, dans le milieu anglo-saxon. Pourquoi ? Parce qu'en France, on a eu un petit peu une philosophie de « Ah, il y avait un mouvement mondial qui était en train de se passer et on ne voulait pas rater le coche. » Donc voilà, sur un certain temps, on a créé beaucoup de MOOC. Mm-hmm. Mais beaucoup, en fait, on n'a jamais eu réellement une logique de transformation sur le long terme. On est sur des cours qui sont accessibles 2-3 ans. Mm-hmm. Voilà, l'argent est dépensé pour créer les ressources. Et en général, après, ça redisparaît dans les méandres du web. On peut compter, j'ai presque envie de dire sur les doigts de la main, non, c'est faux, il y en a un peu plus. Mais certains des MOOC qui sont répétés depuis 7-8 ans, qui se sont intégrés dans des cursus, ça existe. Mm-hmm. Les deux premiers MOOC dans lesquels j'ai participé, d'ailleurs, sont toujours actifs 8 ans plus tard. On a toujours 2 sessions par an, ils sont dans des cursus. Mais ça reste l'exception plus que la règle. On est plus sur des projets de communication à court terme en général que sur des transformations à long terme. Ça, c'est dans le milieu universitaire. Dans le milieu professionnel, c'est plus difficile à dire puisque je connais déjà un petit peu moins la façon mmh. dont c'est employé. Mais le milieu professionnel a beaucoup moins de scrupules à envoyer sur des formations payantes. Du coup, finalement, quand il y a beaucoup de MOOC qui ne répondent pas à des besoins, des MOOC universitaires qui ne répondent pas aux besoins du milieu professionnel, finalement, il n'y a pas un mouvement de fond. Mm-hmm. C'est que quand il y a une intersection et que les cours proposés répondent à des besoins, ce qui est le cas d'une minorité des cours, que là, effectivement, il y a des choses qui se mettent en place. Mais c'est plus anecdotique.
L'année 2012, en fait, a marqué l'explosion de l'usage des MOOC. Qu'en est-il aujourd'hui, en cette période un peu post-Covid?
Encore une fois, ça dépend vraiment, il y a des mouvements de va-et-vient. Par exemple, pendant le Covid, on peut avoir un engouement pour les MOOC, on redécouvre que c'est utile d'avoir des cours à distance asynchrone, tout fait, d'une qualité assez bonne. Et après coup, il y a eu un effet de fatigue par rapport au distanciel et à l'hybridation, et on peut avoir au contraire un rejet des MOOC. Donc il y a beaucoup une réponse un peu liée à l'actualité politique, médiatique, les événements du moment. Je trouve qu'on est trop encore dans une logique de projet et pas encore dans une logique d'opération, de routine quelque part. Donc c'est un petit peu ça en fait. C'est que finalement, le Covid, les événements comme le Covid et autres créent des poussées de fièvre qui permettent de faire bouger les choses, mais ces poussées de fièvre sont passagères. La seule chose que je vois d'intéressant, c'est que parfois, en particulier dans le milieu professionnel, on peut rompre des digues à ces moments-là. C'est-à-dire que par la force des choses, à un moment, il faut que tel ou tel service soit obligé de formaliser l'intégration, l'utilisation d'un courant en ligne, d'un MOOC. Et donc, finalement, on crée des petits cours pionniers qui vont faciliter, après coup, la réplication de dispositifs de cours en ligne. Mais il n'y a pas réellement, en absence de volonté politique et de changement de modèle, en l'absence d'une vision sur le long terme, on ne peut pas parler d'évolution profonde. C'est quelques digues qui cassent à droite, à gauche, mais on n'a pas un tsunami comme certains l'avaient annoncé en 2012.
Vous avez évoqué certaines des forces et des limites des MOOC. Est-ce que vous en voyez d'autres?
Dans les forces, en fin de compte, il y a le caractère massif. C'est-à-dire que si on réussit son coup, c'est-à-dire si on trouve un bon sujet, qu'on arrive à rendre le cours visible, on peut avoir un cours qui est suivi tout d'un coup, 50 000 inscrits, donc personne qui suit réellement le cours, allez, disons 10 000, c'est considérable. 10 000 personnes, même 1 000 ou 2 000 personnes qui terminent un cours, c'est considérable. C'est plus que ce qu'on peut faire en des années et des années d'enseignement à l'université. Donc ça, c'est une force. La faiblesse, c'est que déjà, ce n'est pas tous les jours qu'on arrive à ce type de succès. La faiblesse, elle est aussi connue, c'est qu'en l'absence de contraintes, il y a beaucoup d'inscrits, peu d'élus, peu de personnes qui vont aller au bout. Et donc ça, c'est souvent utilisé comme argument négatif pour décrire les MOOC. Donc au-delà du côté des indicateurs de performance, il y a une faiblesse qui concerne beaucoup les enseignants, c'est qu'on est face à un public de personnes relativement anonymes. Et parfois, ça peut mal se passer, c'est-à-dire que on dit quelque chose qui dérange un ou deux apprenants, et on peut avoir à des conversations de type le forum du monde. Hein. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ce type de conversation sur Internet entre personnes où il n'y a pas réellement d'enjeu puisque tout le monde est anonyme. C'est pas agréable. C'est clairement pas agréable. Et ça, c'est une des faiblesses connues du MOOC, c'est que finalement, on perd les codes de politesse parfois dans les échanges qu'il y a dans une université normale. Mais bon, si on est capable de limiter ce type de phénomène et ou savoir passer outre, il n'y a pas tant d'inconvénients que ça. Évidemment, il y a le temps que ça prend, mais ça, c'est comme tous les projets.
Oui. Je voudrais qu'on aborde un petit peu plus la question de la réussite étudiante. Vous avez évoqué les forums un petit peu dans les MOOC tout à l'heure, mais je voulais savoir en fait quelle est la place du tutorat dans les MOOC.
Elle est extrêmement réduite. Et justement, c'est ça qui fait une des faiblesses du MOOC, c'est que, sauf si on inclut en fait le MOOC dans une unité d'enseignement classique, quand on pense le MOOC pour un encadrement, une diffusion à l'échelle massive, il n'y a pas de tutorat individuel. On a en général une ou deux personnes présentes sur les forums pour vérifier que tout se passe bien, pour répondre aux questions, mais on n'a pas de tutorat. Le seul cas où il peut y avoir un tutorat, c'est quand on hybride le MOOC et que là, on réentre finalement dans une logique de classe inversée avec un cadre un peu d'éducation formelle. Et là, effectivement, on peut mettre en place des tutorats comme dans une formation à distance tutorée. Mais ce n'est pas une spécificité du MOOC, c'est en fait refaire entrer le cadre, le contenu du MOOC dans un cadre de formation à distance classique.
D'accord. Et donc par rapport à ce thème-là de la réussite étudiante, que dit la recherche à ce propos ?
Finalement, il en va des MOOC comme pour toute formation. Mmh. C'est un peu la question du niveau, évidemment, des étudiants et des carottes et des bâtons. À partir du moment où on sait manier correctement la carotte et le bâton, à partir du moment où on a des moyens de récompenser un investissement et de sanctionner un désengagement, bah, la réussite, elle est dans les MOOC exactement comme dans tout type de formation universitaire. Ce n'est pas le format à distance qui va changer tant que ça les choses. En revanche, évidemment, si on dispose ni de bâton ni de carotte parce qu'on parle de tel ou tel internaute, un peu aléatoire, là, toutes les chances, la plupart du temps, les gens ne vont pas au bout. Donc, souvent, on a un petit mélange dans les discours entre les statistiques sur les internautes lambda, avec tout le respect que je leur dois, et les statistiques sur les étudiants. Là, et j'ai vu des MOOC où, si on prenait la population de MOOC, l'ensemble des apprenants, on était plutôt sur du 10% de réussite. Mais si on se focalisait au sein de ceux qui étaient des étudiants et qui avaient obligation de terminer le MOOC, on était sur du 90%, comme dans toute formation normale.
Oui, d'accord. Et justement, certains MOOC sont certifiés, donc certifiants, pardon, d'autres non. Quelle valeur ça peut avoir sur le plan universitaire ou dans le milieu professionnel ? Est-ce qu'il y a une reconnaissance en fait de cette certification ?
Ça dépend vraiment de la philosophie dans laquelle les concepteurs ont conçu le cours et des mesures qui ont été prises pour faire entrer le MOOC dans un cadre formel. Mm-hmm. Par exemple, moi je donne des UE libres où suivre le MOOC est un prérequis et donc si les apprenants ne me donnent pas leur petit certificat, ils ne valident pas mon cours. Donc, je ne fais pas que ça, mais ça fait partie des attendus. Donc là, ça a une valeur, entre guillemets, c'est un peu l'équivalent d'une feuille de présence digitale. Et en ce qui concerne les MOOC pris dans leur intégralité, que ce soit hors des murs de la fac ou dedans, il y a certains concepteurs qui transposent le cours qu'ils donnent en présentiel en ligne. Du coup, souvent, c'est assez dur. Du coup, les taux de certification sont très bas. Mais le certificat vaut presque, ça a presque la même valeur que la validation d'une UE universitaire. À l'inverse, la plupart des concepteurs qui veulent quand même avoir des taux de certification et des nombres de certifiés décents, par centaines ou parfois par milliers, vont diminuer le niveau de difficulté et le certificat a valeur de feuille de présence. Et encore, si les apprenants qui sont un peu malins n'ont pas juste porté la focale sur les quiz sans faire les vidéos, ce qui arrive.
Oui, ça arrive aussi. Pour terminer, quel conseil est-ce que vous donneriez à des concepteurs de MOOC ?
Bien choisir leur sujet. Parce que si sur un sujet, on est sur un sujet qui a peu de chances d'attirer les foules, on va avoir une énorme quantité d'énergie qui va être mise dans un projet qui, en fin de compte, va mobiliser peu de personnes. Bon, s'il arrive au moins à valoriser ça auprès de ses propres étudiants, le concepteur pourra justifier de son investissement. Mais souvent, on a des projets qui sont de base construits pour Internet, pour les internautes, et finalement, le sujet n'est pas réellement attractif. Et on a des dizaines de milliers d'euros qui sont gaspillés, quelque part. Parce qu'on n'arrive pas à avoir un sujet intéressant. En tout cas, ou c'est un sujet intéressant, mais un sujet qui attire suffisamment de personnes pour légitimer l'investissement. Donc, si j'avais un conseil à donner, c'est réfléchir en termes de retour sur investissement. Parce que sinon, on va donner une mauvaise réputation au numérique. Au lieu d'être un gain d'efficacité, d'être un puits sans fond de ressources et d'énergie avec des résultats assez limités. Il faut éviter à tout prix que la montagne accouche d'une souris.
Très bien. Et enfin, selon vous, qu'est-ce que c'est un MOOC réussi ?
Un MOOC réussi, je dirais qu'il y a trois choses. Évidemment, le contenu doit être de qualité sur le plan technique, sur le plan du fond. Vu que c'est un événement, ça veut aussi dire que les interactions avec les apprenants se sont bien passées. Mmh. Donc là, tout ça, c'est plutôt de l'ordre d'indicateurs de qualité. Et après, j'ai envie de dire, indicateurs de quantité, un MOOC réussi, c'est un MOOC qui a eu beaucoup d'apprenants, idéalement 10 000, 20 000, 30 000. Ça, ça fait partie des critères que je pense qu'il ne faut pas négliger.
Merci Mathieu Cizel.
De rien, tout l'honneur était pour moi.